On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV sur les ondes de Boulevard 102.1 de midi à 14h du lundi au vendredi. À la météo, 21 degrés à l'heure actuelle. Il annonce 23 degrés. Peut-être une petite posture d'averse cet après-midi, mais c'est à 40%. Du soleil jusqu'à dimanche par la suite, 17 degrés vendredi, 17 samedi, 19 dimanche. Un super beau week-end avec l'automne qui va frapper à nos portes. Pascal, encore des problèmes dans la circulation?
Je veux rappeler le trafic d'enfer qualifié par Denis Gravel dans le Bourgneuf. À la sortie Laurentien-Sud, là, c'est barré sur Louis XIV. Le détour se fait par dégradin, mais c'est en entonnoir. Si vous avez du temps à perdre, c'est vraiment dans ce secteur-là de la ville. J'essaie de... faire une blague, mais c'est super complexe. C'est ça. Parce qu'il y a des travaux sur le Bourgneuf. Il y a eu l'accident ce matin aussi sur Pierre-Bertrand. Donc, les gens ont un petit peu de difficulté à circuler. Là, c'est vraiment pas fluide. Sinon, je pourrais aussi parler aux abords du pont Pierre-Laporte. Il y avait une complexité en direction nord à la fin du tablier, la voie de gauche, la voie centrale qui était partiellement entravée. Il y avait des débris. On a enlevé ça, mais ça a ralenti le secteur. Et sur Laurentienne-Sud, bretelle pour l'autoroute Félix-Leclerc-Ouest, la voie de droite est bloquée. Il y a un accident.
On rejoint au bout du fil Gabriel Giguère, analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal. Gabriel, ça va bien?
Ça va très bien. Content d'être avec toi.
Oui, moi aussi très content. Gabriel, on va parler des urgences. Et avant, je veux te lire justement un texto qu'on a reçu de Mylène concernant les urgences, qui mentionne qu'elle est arrivée à l'urgence avec des douleurs au ventre. Elle est arrivée vers 7 heures le matin. Ils l'ont fait attendre jusqu'à 16 heures avant de voir un médecin. Donc, bref, elle dit « On espérait sûrement que je me décourage et que je parte. » Le médecin m'a dit à peu près « On n'enlève pas les stérilets ici. C'est impossible qu'ils vous fassent si mal de toute façon. » J'ai pleuré, j'ai supplié le médecin. Il a finalement décidé de me faire passer des examens. Résultat, phase aiguë de diverticulite et donc découverte d'un problème d'intestin à vie. Ils se sont ensuite excusés en m'expliquant que c'était arrivé que des femmes fakent des douleurs pour faire enlever leur stérilet au lieu de prendre un rendez-vous chez le médecin. Morale de l'histoire, ne dites jamais ce que vous pensez avoir, ça pourrait vous nuire. Gabriel, des histoires comme ça, je suis convaincu qu'il y en a plein au Québec et surtout avec les statistiques que l'Institut économique de Montréal nous présente aujourd'hui.
Oui, d'abord, quand même, je reviens sur l'histoire, c'est quelque chose, c'est très... c'est un peu troublant de voir qu'on peut être pris en charge comme ça en matière de santé au Québec. Là. C'est de la souffrance, puis ça, je pense que c'est important à avoir en tête. Mais t'as raison, JF, quand tu dis qu'on a sorti des statistiques ce matin, ma collègue, là, Emmanuel Faubert, pour être précis, a sorti d'excellentes statistiques. Et ce qu'on constate, là, c'est qu'au Québec, on a environ une personne sur 10 ou une visite sur 10 aux urgences. Là, ça, c'est du monde qui ont besoin d'être soignés, comme Mylène, qui vont aux urgences, ben ils partent. Ils partent parce que, justement, l'accès aux soins de santé est difficile. Les temps d'attente, on l'a vu, on en a discuté ensemble plus tôt cette année, ont augmenté beaucoup au Québec. Et donc, ça fait en sorte qu'on est moins pris en charge. Là. De 2019 à aujourd'hui, plutôt en 2019 et 2024, donc l'année dernière, il y a une augmentation quand même là, de 35% de ces gens qui vont aux urgences et qui quittent sans être pris en charge. Puis je pense que collectivement, on doit se le dire, on doit s'asseoir et regarder ça. Le ministère de la Santé doit se pencher sur ces chiffres-là parce que c'est leur chiffre à eux. Soit dit en passant, ça découle d'une demande d'accès à l'information. C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'au Québec, une personne sur 10 ne soit pas prise en charge. Puis quand on compare ça aux grandes provinces canadiennes, parce que bon, c'est sûr que si on compare avec l'île du Prince-Édouard, où c'est tellement différent là, le nombre de la population, que les chiffres sont pas tout à fait comparables. Mais quand on regarde l'Alberta, quand on regarde l'Ontario, on le sait, le gouvernement du Québec aime ça se comparer à l'Ontario, bien ce qu'on constate, c'est qu'on fait moins bien. En Ontario, c'est moins de 5 % des gens qui quittent, tandis qu'ici, c'est plus de 11 %. Donc, on comprend qu'au Québec, on a énormément de travail à faire, et ça, il faut le dire, c'est assez alarmant.
On se demande si on n'a pas un peu abdiqué par rapport à ça. On trouve ça trop gros, puis on se dit, bien, regardez, là, il va falloir revamper un peu le système de la santé si on veut arriver à passer à travers l'urgence, parce qu'on ne comprend toujours pas pourquoi il y a une trolley d'ambulanciers qui attendent avec les patients au lieu d'avoir une infirmière auxiliaire ou quelqu'un d'assez qualifié pour prendre soin de ces gens-là qui sont en attente. On est en découverture pendant ce temps-là en termes d'ambulance sur le territoire. Ensuite, ça avance pas. On fait attendre sur des chaises bien froides, bien droite des gens qui sont déjà en douleur, accompagnés de personnes en détresse psychologique. Il y a quelque chose qu'on ne saisit pas. On se demande, y aurait le minimum d'intervention qui pourrait être fait, puis ça améliorerait déjà grandement la qualité dans nos urgences. Mais peut-être qu'on est à côté de la traque là, en se disant ça.
Non, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose d'important. On a l'impression que les gouvernements abdiquent, mais en même temps, on nous présente des nouveaux modèles dont on le sait que ça fonctionnera pas. Du Santé Québec, où on veut faire du rebrassage administratif plutôt que de se concentrer sur le service qui est délivré aux citoyens, qui est fourni aux citoyens et aux patients. Donc ça, je pense que c'est clairement une des problématiques. Puis quand on regarde là le portrait, ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, des gens qui quittent, là, mais c'est une personne sur 10 qui quitte avant d'avoir été traitée, ben il y en a plusieurs que c'est quand même un niveau de priorité qui est alarmant. Mm-hmm. Quand on parle là, de P1 à P5, qui est la gradation, P1 étant la personne est en arrêt cardio-respiratoire, donc évidemment, elle ne se lèvera pas pour quitter, mais P5, ça peut être de prescription médicale. On a quand même du P3, là. Donc P3, on peut être sur de l'asthme modéré à légère, mais c'est quand même quelque chose d'important, douleur abdominale avec vomissement. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'être pris en charge, mais dont la qualité de la première ligne actuellement ne leur permet pas et donc vont quitter. Et ça nous, collectivement, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer justement d'arrêter d'avoir l'impression que nos décideurs politiques sont à côté de la plaque d'une part ou simplement abdiquent, comme parfois on a l'impression. C'est de dire, mais peut-être qu'il y a des modèles alternatifs.
Oui, parle-nous-en, Gabriel, parce que ce que j'allais te dire, c'est pourtant, au niveau de la CAQ qui est au pouvoir depuis 7 ans et de Christian Dubé, le ministre de la Santé, on nous dit on a amélioré la première ligne avec le gap. Mais ça, pour moi, ces statistiques-là, c'est la preuve d'un échec de cette révolution-là du guichet d'accès unique.
Moi, j'ai toujours peur des statistiques données par le gouvernement parce qu'il va en avoir 40 qui vont dans la version contraire, hein, dans la direction contraire qui démontre que ça va moins bien, mais il va en avoir une qu'on va mettre partout dans les médias pour s'expliquer que ça va bien. Donc, je pense qu'en réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, puis ce qu'on a vu plutôt au courant de l'année avec d'autres classements canadiens, c'est quand même de montrer que le Québec, ça va pas bien. Donc, on peut se faire dire par le ministre, mais concrètement, des gens comme Mylène, il y en a. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup trop. Tu sais, je le rappelle, là, mais c'est 428 000 visites qui n'ont pas vu un médecin au Québec. Tu sais, c'est gros, là, 428 000. Je pense que collectivement, c'est un aveu d'échec. Donc, dans ce contexte-là, d'aller voir ailleurs, de voir en France ce qui se passe. En France, on a des cliniques qui permettent à des entrepreneurs de prendre en charge, justement, des gens sont pas dans l'arrêt cardio-respiratoire, mais qui peuvent être dans du P3, P4, oui. P5, donc de l'asthme modéré avec une certaine détresse respiratoire qui est grave, là, qui doit être pris en charge jusqu'à de la renouvellement de prescription. Donc, point de suture également. Bref, il y a des modèles alternatifs qui existent. En France, ils appellent ça parfois la bobologie, là, mais c'est quelque chose qui ne nécessite pas nécessairement d'aller aux urgences et ça permet de prendre les cas très lourds, très graves, plus rapidement en charge. Il va falloir que le ministre de la Santé puis le ministère de la Santé réalise qu'on peut pas continuer dans cette direction-là puis à nous vendre du Santé Québec puis de la réforme administrative quand les gens qui ont besoin, c'est d'être soignés.
Mais il y a des choses aussi importantes, c'est qu'il y en a qui vont pas... Tu sais, quand t'es rendu à avoir des stratégies pour passer à l'urgence, là, c'est que tu as vraiment la prétention de croire que tu te feras pas soigner dans des délais qui sont acceptables puis que ta condition va probablement être encore plus problématique pour la suite. Mais t'as aussi des hommes, puis moi, ça me fait penser à un cas très près de moi. Quelqu'un qui avait mal, qui avait des douleurs dans le bas de ventre, qui est allé à l'hôpital puis qui a dit, ben, j'ai des douleurs dans le bas de ventre, mais il a pas commencé à cette sorte de douleur parce qu'il fait dur, sa douleur. Finalement, il est en train de se faire une crise d'appendice. Puis comment il a réussi à se faire traiter, c'est qu'il a appelé des gens qui connaissaient en santé, il a commencé à décrire ses symptômes parce qu'on venait pas le voir dans la salle d'attente et ils ont dit, ben là, c'est une urgence parce que tu pourrais en mourir, là. Tu sais, si elle l'est pas pris à temps, cette crise d'appendice-là, tu meurs. Fait que, il a commencé à dire qu'il croyait que c'était ce qui se passait, puis tout de suite, il a été pris en charge, puis ils ont dit, pourquoi, monsieur, vous nous avez rien dit? Il dit, ben, je vous l'ai dit. Tu sais, ça dépend aussi de ça, tandis qu'il y en a d'autres qui vont faire en sorte que leurs symptômes paraissent plus douloureux pour essayer de passer parce qu'ils sont inquiets. Quand on est rendu à douter de notre système de santé, ça va encore plus l'ankyloser, j'ai l'impression. Et on le voit de plus en plus, on demande une contrepartie, ce qui est correct aussi, mais tout le monde va trop vite dans le système, tout le monde trouve sa stratégie, ça fait en sorte qu'il n'y a plus de ligne directrice. Est-ce qu'on se trompe, Gabriel?
Sinon, c'est très vrai de ce que tu dis, puis c'est vrai aussi que, je veux dire, la douleur, c'est subjectif, au sens où, oui, t'as mal, mais la façon de réagir sera pas la même. Fait que là, est-ce que tu vas t'adapter? Je comprends tout à fait, puis le problème aussi, c'est que, mettons, tu t'en vas à l'hôpital, t'as un problème, bon, c'est peut-être pas un problème de vie ou de mort, mais c'est un problème qui doit être pris en charge, puis tu peux pas aller voir ton médecin de famille, tu n'en as pas. Mm-hmm. Tu peux pas aller dans les cliniques sans rendez-vous, ça ne marche pas.
C'est rendu avec rendez-vous, puis ça, c'est si t'es chanceux, mais c'est du sans rendez-vous.
Exactement. T'sais. C'est exactement ça. Fait que là, tu t'en vas à l'hôpital, tu as un vrai problème qui doit être pris en charge. C'est la seule façon d'aller aux urgences. Puis finalement, ça fait trop longtemps que tu attends, tu dois quitter. Mais c'est parce qu'en réalité, quand on regarde les statistiques, tu as plus d'une personne sur deux qui quitte, qui va reconsulter dans les 3 prochaines semaines et à grande majorité pour le même problème. Donc, le fait que ça ne soit pas pris en charge, c'est pas des gens après ça que bon, le problème de santé disparaît en fait. Absolument pas. Le problème de santé reste là, il doit être pris en charge et malheureusement, on n'a pas d'alternative. Donc, collectivement, ça nous coûte plus cher, mais même pour la personne. La personne souffre. Donc, à la base, il y a un coût. Il y a un coût dans le fait de souffrir, puis ensuite de ça, c'est de dire, ben, elle va prendre une journée de maladie pour la première fois, mais elle peut pas être vue. Donc, la deuxième fois, elle va reprendre une deuxième journée de maladie pour le même problème qui aurait dû être traité. Je pense que collectivement, ça fonctionne pas. Là. Je pense que on est devant un aveu d'échec. Là. À tout le moins, le gouvernement, le ministre de la Santé, va devoir répondre à certaines questions devant les statistiques qui, je pense, sont assez accablantes.
J'ai une question particulière, Gabriel. Tu vas comprendre pourquoi je la pose. Quand vous avez fait une demande d'accès à l'information, est-ce qu'il y avait des choses caviardées dans votre demande d'accès à l'information?
Ben d'abord, il y a deux volets à cette
question. Tu comprends pourquoi je la pose, hein?
Oui, bien sûr. La première, c'est ma collègue qui l'a faite. Donc, je veux prendre son travail quand même. Et là, on a décidé d'aller plus large en la matière. Donc on est allé faire un classement interprovincial et ça a été très, très long. Mais non, on n'a pas eu d'éléments caviardés. Ils nous ont simplement pas transmis certaines provinces, là, les éléments qu'ils voulaient pas qu'on ait.
Merci beaucoup, Gabriel Giguère. On parlera des exportations plus tard parce que sur la ligne, on va avoir prochainement le candidat à la mairie, Sam Ahmad, qui va répondre là, à des accusations d'intimidation. Il nous appelle dans quelques instants. Gabriel, un grand merci et on se reparle prochainement. Merci pour cet excellent
merci.
Dossier.
C'est un plaisir. Au revoir.
Salut, Gab.
Tu comprends que quand je parle de caviardé, là,
ben oui.
C'est que parfois... Il nous donne pas de l'information. Puis cette information-là qui n'est pas donnée, c'est elle qui est cruciale aussi. Fait que ça va être intéressant de reparler à Gabriel là-dessus. Puis en passant vos histoires 88-971-1021, Jeff les lisait, je les lis.
Ah oui, et on est là-dedans. On a plein qui entrent. Et justement, en attendant le téléphone de Sam Ahmad, là, on a un auditeur qui nous écrit, Eric, c'est pas drôle, vraiment, c'est rendu que ça prend un doctorat en souffrance pour être capable d'avoir de l'aide. C'est tellement vrai.
Mais tu sais, quand des gens simulent une douleur plus aiguë que ce qu'ils ressentent, là, parce qu'ils sont inquiets. Là, je fais pas du tout la morale. Là. Ils sont inquiets.
Exactement.
Puis ils savent qu'ils vont passer dans 12 heures, dans 13, puis ils ont peur d'une dégradation de leur état. C'est pas plus drôle, là. Mais ça fait en sorte que ça peut être quelque chose de très négatif. Là.
Clairement. J'ai été à l'hôpital dû à une douleur à une dent et mon visage était enflé. 8 heures plus tard, je vois le doc. Il est allé chercher l'infirmière et lui a dit « Quand tu as un patient avec ces symptômes, tu le passes tout de suite. L'infection pognée dans mon sang... » a fallu que je fasse l'intraveineuse pendant 5 semaines.
Ça fait pas de sens.
Ça ne fait